Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Cher frère Augustin-Marie, cher frère Louis-Bertrand, servum te caritas faciat, quia liberum te veritas fecit. Que la charité te fasse esclave, puisque la vérité t'a fait libre. Cette formule est de saint Augustin. Elle est tirée de son commentaire du psaume 99. Et elle illustre votre parcours. En même temps, elle vous trace le programme à suivre désormais. Liberum te veritas fecit. La vérité vous a fait libre. Un jour, dans sa bonté, le bon Dieu a frappé à la porte de votre cœur. Il vous a dit avec amour, comme à l'épouse du Cantique des Cantiques, « Ouvrez-moi, ma sœur, mon amie, ouvrez-moi » et vous avez reconnu la voix du bien-aimé, la voix de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors vous lui avez ouvert et vous l'avez prié d'entrer et d'être le maître chez vous, sur vous-même et sur tous vos biens. Et vous êtes devenu religieux dans l'ordre de Saint-Dominique par une grâce insigne de Dieu. Alors pourquoi ce choix ? Eh bien, pour être plus libre, précisément, pour parvenir plus vite, plus librement, sans entrave, à la perfection de la charité. Alors, vous direz, tous les baptisés doivent parvenir à la perfection de la charité. C'est vrai. Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Cette parole n'a pas été dite aux seuls religieux. Elle a été dite à tous les baptisés. Oui. Mais pour atteindre cette perfection de l'amour de Dieu, il existe deux voies. La voie qu'on appelle des commandements, qui concerne tous les baptisés, et puis la voie des conseils évangéliques, la voie de l'état religieux, la voie de la pauvreté, de la chasteté et de l'obéissance, dont saint Thomas dit qu'elle est la plus facile, facilius, la plus sûre, securius, et la plus rapide, expeditius. Et en effet, qu'est-ce qui, pour les pauvres pécheurs que nous sommes tous, peut retarder le mouvement de notre âme vers Dieu ? Quels sont les biens, les soucis, les nécessités de la vie qui, bien que légitimes, peuvent accaparer notre âme au point de la retarder ou même la détourner dans sa marche vers Dieu ? Eh bien, ces biens, ces attaches, sont au nombre de trois. Ce sont d'abord les biens extérieurs, les biens matériels, et Dieu sait si beaucoup d'hommes y sont attachés. Ce sont ensuite les biens de la vie sensible, les biens du corps, les amours humains. Et puis surtout, c'est le bien de notre propre âme, notre liberté blessée, qui rend la conduite de notre vie si aléatoire et si difficile. Or, par les trois vœux de pauvreté, de chasteté et d'obéissance, le religieux se libère radicalement de ses attaches. Et dès lors, il peut, comme dit saint Thomas, vaquer à Dieu plus librement, en contemplant, en le contemplant, en l'aimant et en accomplissant sa volonté. Ce sont les termes mêmes de saint Thomas. Alors ces vœux, vous les pratiquez déjà depuis plusieurs années. Vous avez fait déjà profession temporaire il y a un certain temps. Mais le moment est venu aujourd'hui d'en faire publiquement la profession définitive, solennelle. Et il n'est pas inutile, pour bien comprendre cette profession religieuse, de l'expliquer, d'expliquer en quoi elle consiste, d'expliquer ce que vous allez faire. Car ça n'est pas seulement une œuvre négative de renoncement, de libération, c'est une œuvre éminemment positive. Alors, qu'est-ce que c'est que cette profession religieuse ? Eh bien, c'est d'abord un contrat de donation, un contrat divin entre Dieu lui-même et vous, votre âme. Or, vous le savez, un contrat exige une contribution des deux parties. Dieu, de son côté, s'engage à vous donner toutes les grâces, tous les secours dont vous aurez besoin pour devenir de saints religieux et pour parvenir à la perfection de la charité. Mais vous, que donnez-vous ? Eh bien, vous vous donnez vous-même, par amour, tout entier et sans condition. Saint Augustin, encore lui, l'a exprimé dans un autre de ses maîtres mots dont il a le secret. Totum exigit te, qui fecit te. Il t'exige tout entier, celui qui t'a fait. Dieu veut tout. Tout ce que vous avez et tout ce que vous êtes présentement, et tout ce que vous serez dans le futur, toutes vos potentialités, tous vos actes et le pouvoir même de les produire. Et vous ne donnez pas tout cela pour un an, ou pour 2 ans, ou pour 10 ans, mais usque ad mortem, pour toujours, jusqu'à la mort. Et c'est cela qui fait la grandeur du don et qui en prouve la sincérité. Car s'il n'en était pas ainsi, si vous mettiez des réserves, des conditions, eh bien cela voudrait dire que vous doutez de Dieu, de sa grâce, de son amour, de ses promesses, et ce serait lui faire injure. Le don de vous-même serait entaché par un misérable calcul. D'autre part, cette profession religieuse est aussi une consécration. Quand, par ses rites, l'Église consacre une chose profane à Dieu, elle en change l'usage et la propriété. Une fois consacrée, cette chose, un calice, une église par exemple, est exclusivement destinée au culte divin. Elle appartient à Dieu et elle ne peut plus être utilisée à un usage profane. Et c'est ainsi que dans l'Ancien Testament, on consacrait les victimes destinées au Seigneur avant de les immoler. Eh bien, la profession religieuse est la consécration des victimes de la loi nouvelle. Le religieux devient par ses vœux solennels la victime, au même titre que notre Seigneur, avec lui, en lui. Le religieux devient l'holocauste du Seigneur. L'holocauste dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Loi, c'était le sacrifice parfait, celui dans lequel la victime était entièrement consumée, pour montrer le souverain domaine de Dieu sur elle. Eh bien, la consécration religieuse est un holocauste, accompli sous l'influence de la charité. C'est ce que saint Augustin nous a dit au début, « Servum te caritas faciat », que la charité vous fasse serviteur, esclave, par amour. Et les conséquences sont très importantes, et elles sont même enthousiasmantes. Consacré, vous ne vous appartenez plus. Vous êtes la propriété du Seigneur, entièrement vouée à son culte et à son service, comme un calice. Et il s'ensuit que tous vos actes, même les plus humbles, même ceux qui sont en apparence les plus indifférents, deviennent des actes de religion, pourvu que ce soit des actes bons. Toute l'activité vertueuse du religieux, toutes ses bonnes œuvres, constituent un service de Dieu, un acte de culte. C'est admirable. Alors, dès lors, vous devez honorer votre profession et votre état. Si, parmi les hommes, le serviteur est tenu à faire honneur à son maître dont il porte les livrées, eh bien, a fortiori, le religieux consacré. Il doit être un reflet de la dignité de son Seigneur, entièrement attaché à son service. On a dit des religieux que par leur consécration, ils étaient comme la noblesse et l'aristocratie de l'Église. Bon sang ne saurait mentir. Ils doivent être au premier rang pour témoigner de la sainteté de l'Église et former par leur vie de prière, leur régularité, leur esprit de sacrifice, leur zèle apostolique, la garde rapprochée de notre Seigneur Jésus-Christ et de son Église. Et puis enfin, la profession religieuse est un serment solennel fait à Dieu et dans le cas de notre profession dominicaine, fait aussi à la bienheureuse Vierge Marie et à saint Dominique. Dans quelques instants, vous allez dire ces mots « Promito obedientiam Deo et Beate Mariae et Beato Dominico ». Je promets obéissance à Dieu, à la bienheureuse Vierge Marie et au bienheureux Dominique. C'est un pacte de société avec notre Seigneur, un pacte social en quelque sorte, qui vous lie de cœur et d'âme indissolublement à Dieu et à son œuvre de salut. C'est un serment solennel, irrévocable, de travailler toujours pour notre Seigneur Jésus-Christ, quoi qu'il puisse vous en coûter. Un serment qui vous lie pour la vie et pour la mort. Alors, les sociétés secrètes qui travaillent pour le mal ont elles aussi leurs serments. Vous le savez, dans ces officines, les membres se lient les uns aux autres. Ils abdiquent aussi leur liberté. Ils se donnent les uns sur les autres droit de vie et de mort. Cela fait trembler. Mais il s'agit là d'engagements diaboliques. Vous, vous vous donnez par amour à Jésus-Christ, qui n'est pas un homme, mais qui est le Fils de Dieu lui-même, et qui s'est livré pour vous en rémission de vos péchés. Jésus-Christ qui, en récompense, vous promet la vie éternelle. Alors oui, vous donnez à Jésus-Christ droit de vie et de mort sur vous. Vous vous engagez à le suivre jusqu'au bout de l'immolation, par amour. Servum te caritas faciat. Que la charité vous fasse esclave. Et c'est pour cette raison que saint Thomas compare la profession religieuse au martyr. Le religieux prophète donne sa vie à Dieu par amour. C'est une sorte de martyr. Et c'est également pour cette raison qu'on dit de la profession solennelle qu'elle est comme un second baptême, une nouvelle naissance qui nous rétablit dans l'innocence originelle. Alors à partir d'aujourd'hui, vous prenez un nouveau départ. Votre âme entreprend l'ascension de la montagne de la perfection. Et comme toute ascension, elle a ses dangers, ses fatigues. Et pour la mener à bien, il faut être animé par le désir de parvenir au sommet, d'atteindre la cime. Vous êtes déjà allé en montagne, vous connaissez bien la montagne, vous savez comment ça se passe. Au départ, tout est facile. La montée n'est pas encore trop rude. Les sous-bois sont frais, sont séduisants. Eh bien, l'âme qui se donne à Dieu est à cette image. Les premiers contacts sont attrayants. Le tête-à-tête dans la solitude avec notre Seigneur est des plus doux. L'âme découvre les délices de l'amour de Dieu. Et puis le sentier devient plus étroit. On monte par de vieux éboulis. Il ne faut pas se tromper de chemin. Il y a des voies de garage. Il y a des passages difficiles, dangereux, au pied des murailles rocheuses ou le long des précipices. Il faut suivre le guide, marcher dans ses pas. Et bien de même, peu à peu, l'ascension spirituelle devient plus ardue. Elle présente des difficultés. Et l'âme qui veut marcher seule se met en danger. Elle devient la proie de l'orgueil et risque une chute d'autant plus grave qu'elle sera montée plus haut. Il lui faut donc des guides, les guides que Dieu lui donne, sa règle, ses constitutions, ses supérieurs. On ne va pas tout seul à Dieu. Et puis parfois, au cours de la montée, il y a un col avec une bergerie, une source fraîche, on peut faire une halte. On peut contempler l'horizon, reprendre des forces, s'abreuver, jouir de l'altitude. Et bien ainsi, l'âme qui veut monter au sommet de la perfection passe aussi par de rudes chemins, par des épreuves qui réclament toute son énergie, mais elle connaît aussi des moments de répit, des haltes, où elle peut jouir des horizons que Dieu lui ouvre, se désaltérer à la source des sacrements, de l'oraison, des saintes écritures. Il y a de grandes joies indicibles dans la vie religieuse. Et plus on monte, plus les arêtes rocheuses l'emportent sur la végétation. Au bout d'un moment, il n'y a plus de verdure. La nature se fait plus âpre, plus aride, mais la lumière est plus belle, plus pure. Eh bien, pour l'âme aussi, il faut faire le vide autour de soi et en soi, ce qui est beaucoup plus dur. Au fur et à mesure de la montée, il faut se renoncer. Pour atteindre la croix qui est au sommet, c'est dans ces montagnes, nos anciens plaçaient toujours une croix tout en haut. Mais quand on est parvenu au sommet, c'est l'enchantement. Rien n'arrête la vue, le cercle des chaînes de montagnes avec ses glaciers étincelants, les crêtes enneigées, tout cela s'étale tout alentour. Et puis blotti tout au fond de la vallée, tout en bas, on aperçoit les forêts, les villages, les champs qui sont comme des petits mouchoirs posés sur le décor. Eh bien, un étonnement semblable, mais beaucoup plus profond, surnaturel, attend l'âme qui a tout quitté pour monter à la suite de Jésus. La vue grandiose qui lui est donnée en récompense, c'est la joie de la contemplation. C'est la connaissance savoureuse, amoureuse de Dieu et de son amour pour nous. Un dernier mot. On peut imaginer quelques variantes dans le récit de cette ascension. Parfois, il faut monter chargé, avec le ravitaillement. ou bien encore à travers le brouillard qui surprend sans prévenir. L'âme, dans sa montée spirituelle, doit aussi, à certains jours, faire son ascension, le dos courbé sous le fardeau. Ce n'est pas un sac à dos qui pèse sur les épaules, c'est le poids des péchés, les siens, les nôtres et celui des autres. La misère humaine, la souffrance sous toutes ses formes, le dégoût même parfois, la lassitude qui s'empare de l'âme. Et puis il y a aussi le brouillard, ce brouillard opaque qui ôte toute visibilité. On n'a plus de point de repère, impossible de savoir où est le danger. C'est l'image des épreuves purificatrices, de la nuit qui envahit l'âme à certaines heures, des tentations qui s'insinuent plus ou moins fortes. Et vous connaîtrez tout ça, ça fait partie du plan de Dieu. Tout cela est bien réel, il faut en passer par là. Mais si Dieu permet ou veut toutes ces choses, c'est pour notre plus grand bien. C'est ainsi qu'il purifie nos âmes, qu'il les affermit, qu'il se les attache davantage. Alors demain, nous allons fêter une autre ascension, l'Assomption de Notre-Dame, en corps et en âme jusqu'au ciel. Dans votre propre ascension, puisse la Vierge Marie être votre guide, votre avocate, votre espérance, votre mère, votre modèle. Elle est la reine de notre ordre, la mère des prêcheurs, la Vierge du Saint-Rosaire. Eh bien, laissez-vous porter par elle, elle vous mènera jusqu'au sommet. Et c'est de tout cœur ce que nous demandons pour vous à l'occasion de cette messe. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.